Bon, je vais aller comme une bolide parce que justement il y a peu de temps. Si j'ai du temps après dans la discussion, on va revenir à certaines choses. Je vais en quelque sorte faire l'économie de ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la réflexion théorique et conceptuelle, la structuration donc de la problématique pour aller vraiment très très vite dans les études de cas, car ici j'essaie de surfer sur 300 ans et ce n'est pas évident. Je prends deux citations qui sont pour moi évocatrices. Toute la politique part d'un grain de blé, c'est Mirabeau, Physiocrate. Point de pain, point de politique, c'est Ange Goudard, qui est un aventurier, comme on aime dire, mais aussi un agronome un tout petit peu dévoyé. Donc pour moi, tout ce qui touche au pain relève de la politique, quasiment depuis toujours et encore aujourd'hui. Il va de la formation des États, de leur stabilité, de la légitimité de leur chef, de la tranquillité de la société. On associe par convention historiographique le souci frumentaire, ou si vous préférez, de ravitaillement du gouvernement avec la notion de quantité plutôt que de qualité. On n'a pas forcément tort. Au moment de tension maximale, de grand stress dans le système d'approvisionnement, la quantité prime toujours sur la qualité. De façon anachronique, on pourrait dire que le productivisme prime sur la valeur boulangère des blés. Mais la police des grains, disons plutôt de la filière blé, farine, pain, s'appuie traditionnellement sur un triptyque de priorités conjointes en termes de l'obligation qu'assume le prince nourricier, boulanger en dernière instance, à l'égard de ses sujets, ses enfants, les consommateurs, du pain en dose suffisante, de prix abordable et de qualité idoine. Même en période de disette, le gouvernement n'ose pas ne pas prendre en compte la variable de la qualité, perçue comme une provocation ou un complot, ou ce n'est pas moins grave, une pratique d'incurie ou d'indifférence, si on ne fait pas attention à fournir donc en l'occurrence un pain qui était acceptable, qui était mangeable, sinon forcément si pas sinon somptueux. Dans la mesure où les gouvernés jugent les gouvernements par leur engagement canonique d'assurer le ravitaillement, de remplir le contrat social des subsistances, test ultime de légitimité politique, la qualité des denrées de première nécessité pèse de façon significative. L'État ou le gouvernement se préoccupe de la qualité, en l'occurrence du pain, mais on pourrait évoquer séparément les problématiques, pas tout à fait les mêmes, de la qualité des céréales et de la farine, pour des raisons multiples, avec des mobiles différents selon les circonstances. Je dis les circonstances ou la conjoncture, mais certaines questions de qualité peuvent être appréhendées ou lues comme des phénomènes plutôt structurels. La notion même de qualité n'est jamais univoque ou homogène. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'élaborer, mais ça aussi mérite une réflexion approfondie. À travers le temps, les classes dirigeantes, comme on disait autrefois, envisagent la qualité comme une question morale, comme une question médico-nutritionnelle, ou comme une question sociale, ou comme une question économique, ou comme une question agro-météo, comme le roi Ladurie aurait pu dire, ou comme une question phytosanitaire, ou comme une question principalement organoleptique ou sensorielle. Cette dernière catégorie détenant sur quasiment toutes les autres. Je vais évoquer la qualité quasiment dans toutes ses significations, mais avec un accent inégal, à la fois en fonction du temps qui m'est imparti et de mon sens de la hiérarchisation des choses. Donc, je vais vous amener sur un voyage un peu vertigineux pour qu'on puisse voir un tout petit peu comment, justement, la qualité surgit comme une question politique, comment la qualité conditionne de façon permanente des décisions politiques, la politique, mais même le politique, dans sa façon d'être pensé. Et puis, encore une fois, comme je dis ici à la fin, on a un peu de temps pour revenir à les présupposés que je n'ai pas articulés. Ça me ferait évidemment plaisir. Donc, commençons avec le cas du pain mollet dans les années 1660. Là, on est dans une optique de l'élite. Le pain mollet, c'était un pain de fantaisie, comme on disait à l'époque, comme on disait d'ailleurs aussi au XXe siècle pour d'autres types de pains. Les pains dits à la reine, les pains de Ségovie, ces petits pains qui pesaient moins d'une livre et qui étaient faits souvent avec des œufs, du lait, parfois du sucre, parfois même avec une matière grasse. C'était des pains qui étaient extrêmement prisés, extrêmement convoités par le monde de la cour, mais aussi par la haute bourgeoisie parisienne et le monde parlementaire. Et ce pain était fait avec de la levure. La levure était tirée de la bière, on disait la levure de la bière. Aujourd'hui, on a une levure industrielle, les boulangers préfèrent dire euphémistiquement biologique, qui est fait soit des mélasses, soit à la base de certains grains. À l'époque, c'était la bière. Il y avait toute une industrie, une mini-industrie de la production de la levure qui était d'origine belge et puis qui a migré vers le nord de la France. Et il y avait des facteurs, des courtiers, même des marchands de la levure. Et on sait par les inventaires précis et par les fichiers de police que la levure commençait à s'imprégner les fournils même pour le pain quotidien. Quel était le problème dans les années 60, 60 du 17e siècle? C'était une critique médicale, dans un premier temps, de cette levure de la bière. La levure de la bière étant une substance, selon certains, toxique, pouvant avoir des conséquences néfastes sur le système neurologique et également sur le système digestif. Il y avait tout un argumentaire de la part d'un certain nombre de médecins appuyés sur des chirurgiens également qui condamnaient ces pains comme une espèce de pépinière ou de grande dangerosité. Et donc, il y avait une clash juridique. Le cas est monté jusqu'au Parlement en passant par l'Académie de médecine. Dans un premier temps, le pain a été approuvé par la lieutenance générale de police de Paris, puis le Parlement l'a contredit. C'était un débat qui était donc médical et juridique, mais en même temps, c'était un débat profondément moral entre les gens qui craignaient que la mollesse, une forme de luxe excessivement exagéré, ne pouvait que miner justement les gens qui devaient gérer ce monde de la fin du XVIIe siècle. Et il y avait de l'autre côté des hédonistes qui faisaient l'apologie du plaisir et qui trouvaient dans ces pains quelque chose d'extrêmement envoûtant et qu'il fallait à aucun prix abandonner. Il y avait également implicitement dans cette affaire-là, aux interstices, un affrontement politico-administratif entre les instances différentes, le Châtelet de Paris, le Parlement et la maison du roi, incarnée en instance par un secrétaire d'État et par l'intendant de Paris. Donc les gens étaient divisés sur cette affaire-là. L'enjeu n'était pas le bien-être général, mais c'était donc en quelque sorte la prérogative de l'élite de s'empoisonner comme elle voulait ou pas. C'était une histoire qui avait un grand retentissement même au XVIIIe siècle, grâce en partie à un poème célèbre de la Condamine, un savant remarquable, aussi littéraire, qui expliquait que ce pain se trouvait au petit déjeuner de tout le monde qui comptait, et que même si la mort volait sur les ailes du pain moulé, c'était tout de même une mort délicieuse. Plus communément dans les questions de qualité, évidemment, étaient des questions qui avaient une incidence plus massive, une incidence populaire. Et là, on pense tout de suite à la falsification de la farine et moins communément du pain, leitmotiv de la police depuis le XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà un couplet satirique qui dure des siècles, que je retrouve au XVIIe et même au début du XXe. Alain, savon et farin mélangé, farine, farin, voilà le pain que chaque jour vous mangez. C'était donc de l'adultération, comme on dit aujourd'hui, la falsification, le blanchiment de la farine, son égorgement par des substances étrangères. Au milieu du XXe siècle, c'était des machines fort sophistiquées combinant chimie et électricité qui blanchissaient encore plus efficacement, avec une menace encore plus grave à la santé publique. Et ça, c'est une histoire que je raconte en partie dans Le Pain Maudit, qui est doublement intéressante parce que après la Deuxième Guerre, on rêvait de retrouver le pain blanc. Le pain blanc était extrêmement galvanisateur parce qu'il était associé avec la mobilité sociale, avec l'ascension, avec la pureté, avec le bien-être. Vous lisez ça en Rétif de la Bretonne, il quitte la campagne, il quitte le pain qui est grossier, qui est dur et qui est noirâtre, pour trouver donc la ville où on mangeait un pain qui était grisant par sa blancheur en particulier. Et après la guerre, pour des raisons auxquelles je vais revenir, le taux d'extraction était très élevé. C'était un poids spécifique plus 10-12, c'était un pain extrêmement ignoble, évidemment les meuniers en particulier, les boulangers aussi, essayaient de trouver sur un marché noir ou de façon sous le manteau des farines plus blanches, on soupçonnait qu'il y avait une énorme raquettes, si vous voulez, dans laquelle étaient des centaines de meuniers qui importaient des machines de la Belgique et de l'Allemagne, dont une machine Brabandaire. Le nom Brabandaire est très important dans le monde du laboratoire des moulins au XXe, XXIe siècle, parce que c'est une machine, entre autres, qui mesure la capacité d'hydratation de la farine. Donc c'était une boîte qui avait une certaine prestige, et ils vendaient des machines qui étaient illicites en France, qui étaient défendues, car ils pouvaient provoquer des symptômes de ce qu'on appelait en laboratoire la folie canine, c'est-à-dire des problèmes type pain moulé du 7e, mais sur un niveau beaucoup plus grave. Il y avait une enquête qui était lancée par une unité conjointe de la répression des fraudes, officine qui existe à peine aujourd'hui et qui explique en partie le fait que le cheval est partout dans votre bouffe. La comment on appelle ça, la police judiciaire, et ils ont fait une descente nocturne dans une centaine de moulins. Après une longue préparation, ils avaient trouvé une trentaine, 35 de ces machines chez un certain nombre des meuniers les plus puissants de la France. Et brutalement, l'enquête était cassée, était arrêtée par un juge d'instruction sur ordre de la chancellerie, parce qu'il ne fallait pas mettre en question la fiabilité de la filière blé farine pain. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut imaginer le rapport politique et qualité au XXe siècle, quand l'enjeu de la qualité est très, très compliqué, parce que la qualité, c'est une forme de représentation du bien-être, c'est aussi un certain nombre de molécules volatiles qui sont intrinsèquement présentes dans un produit. C'est en même temps une espèce de jeu proustien de la mémoire. C'est très compliqué, la qualité, et la qualité a des enjeux politiques différents. D'un côté, évidemment, un impératif sanitaire, de santé publique, à l'époque où il y avait un ministère de la santé publique, et de l'autre côté, la pression d'un lobby extrêmement puissant, en l'occurrence l'Association nationale de la mannerie française, qui a su donc étouffer cette affaire, qui était une affaire extrêmement grave à l'époque. Donc la police trouvait d'autres ruses également, l'humidification des blés, des farines, le rajout de pommes de terre ou de farine de fèves, voire de la chaux ou de la sueur de bois, chose qui réapparaît donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans le ritournelle de la fin de l'Ecclésio, il raconte comme il a failli mourir pendant la guerre, ayant mangé un pain qui était fait avec à peu près le tiercure de bois. Il en a gardé un très mauvais souvenir, l'Ecclésio. De la Mare, commissaire de police, codificateur de la police fin 17e, cité comme clé de voûte du système de contrôle de la qualité, une ordonnance du 16e siècle qui exigeait que le pain fût sans mixtion, bien élaboré, fermenté et boulangé, ainsi qu'il convient. Fin de citation. Ce commissaire de police énonçait trois critères. Premièrement, la farine pétrie par le boulanger devait être de bon blé, ni aigre, ni échauffée, et empuantée ou gâtée. Deuxièmement, la pâte devait être bien levée, toujours vrai aujourd'hui. D'où l'interdiction, par exemple, de pétrir dans le faubourg Saint-Jacques pendant les heures où on retirait les matières fécales, parce que ça pouvait imprégner donc la pétrissée. Troisièmement, il fallait que le pain fût cuit bien à propos. Donc arrêtez de demander un pain pas cuit quand vous rentrez dans votre boulangerie, c'est une connerie. Maladie populaire, parce que le pain ne peut pas atteindre son apogée sensoriel, mais ça c'est une autre histoire. Il y avait aussi, je continue, des maladies populaires associées avec la mauvaise qualité des grains et du pain. En 1692-13, encore en 1709, et après une manifestation consubstantielle à la crise subsistentielle démographique, comme le roi Ladurie le décrivait dans un de ses néologismes tellement sympathique. Les curés ou les autorités locales ou les consommateurs dénoncent l'utilisation des blés d'ordonnance dites du roi, financées, subventionnées par le roi, ou d'autres fournitures pourris ou porteurs de pathologies, ou des gestes crapuleux de la part des meuniers ou de marchands cupides et sans scrupules. Les accusations de grains pourris contre Samuel Bernard, banquier de la cour, protestant, sauveur officiel de Paris en 1725-26, pendant une disette aiguë, sont extrêmement révélatrices de ce que j'appellerais cette double contrainte, ce double bind qui risque de saboter toute intervention plus ou moins officielle. Quand Bernard fait jeter ses grains réellement pourris dans la Seine, imprudemment par ses laquais habillés dans sa livrée, il est dénoncé tout de suite comme fauteur d'un complot de famine. Donc il fait du bien et ce faisant, il se fait du mal. La disette de 1738-41 crise encore plus aiguë, intervention massive de l'État. Et une autre dimension de cette préoccupation avec la qualité, l'omniprésent banquier protestant, cette fois-ci c'est Isaac Tellusson de Genève, qui formera Necker et qui suit une fin de non-recevoir de la part des autorités parisiennes et royales quand il essaie de faire venir, parce qu'il pouvait le faire rapidement et frugalement, du seigle en grand volume, mais aussi de l'orge et de l'avoine, car on lui explique que les consommateurs de la capitale ne mangent que du froment, même en disette. Les gens ne mangent pas n'importe quoi, c'est mon point de vue, mais là on rentre dans un grand débat. Pour moi, même sous stress intense et malgré tant d'histoires que vous connaissez tous, les histoires de la consommation des eaux déterrées dans les cimetières, le fee-fi-fo-fum dans la fable anglaise, l'incorporation dans le corps d'autres matières immangeables, je ne retiens pas sous cette rubrique le pain fait de seigle ergoté, ça c'est toute une autre problématique. Mais on pense à la formule de Lévi-Strauss, il faut que ça soit bon à penser avant d'être bon à manger. Ceci, encore une fois, soulève un très grand débat, un débat politique, proprement politique. Ça me fait penser à l'ambassadeur américain qui, dans les années 60, pendant les grandes famines en Inde, disait « Mais mangez vos vaches !» parce qu'elles étaient partout. C'était évidemment un raccourci, mais pas simplement une provocation, mais une indication de la pauvreté de la culture de la diplomatie américaine. Bon, passons. Pendant la période des Lumières économiques, on raisonne sur les blés et forge une véritable science des subsistances à partir de la première libéralisation, de ce moment de grande rupture où le roi dit à son peuple « Je vous en émancipe, hein, vous êtes désormais adulte, débrouillez-vous, je ne vous fais plus manger, ce n'est pas mon problème, le paternalisme c'est fini ». Ça c'était le début du libéralisme en France, quand l'État se dégage, et à ce moment-là, entre autres choses, c'est un moment façonnant d'innovation, de provocation, c'est aussi le début de la décennie la plus turbulente du XVIIIe siècle avant la Révolution française, mais l'État, entre autres choses, promeut vigoureusement ce qu'on appelle la mouture économique. Et c'était une façon de passer et repasser par réduction graduelle la farine bloutée étape par étape, un peu comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, on appelle ça autrement aujourd'hui, mais c'était justifié par le biais d'un argument autant qualitatif que quantitatif. Tirer davantage de farine de la même quantité de blé, mais de la farine de qualité supérieure, notamment en supplément important de ce qu'on appelait la fleur de la farine, tirée des gros qui subissaient plusieurs passages entre les meules. Il y avait de la résistance meunière, de la résistance boulangère, car évidemment, ça obligeait les gens d'accepter un rendement plus important et de farine et de pain, ce qui foutait en l'air des tarifs de taxation, de fixation des prix qui étaient favorables aux meuniers et aux boulangers, car dans beaucoup de lieux en France, et d'ailleurs jusqu'à 1986, le prix du pain était fixé, on appelle ça la taxation. Et il y avait également une stigmatisation qui était manipulée et maniée par les meuniers et par les boulangers qui disaient que la mouture économique donnait une farine qui allait vous empoisonner. Il y avait des émeutes à Troyes, à Dijon, en plein milieu de la guerre des farines de ce pauvre Turgot, causée en partie par l'implantation de la mouture économique, qui était un système assez fascinant et disons proto-industriel, avec l'idée que la farine dite économique était toxique. Il y avait un autre grand débat pendant cette période des Lumières économiques, sur la possibilité d'une sorte de troisième voie panaire, un pain de ménage, un pain qui ne serait pas donc un pain blanc, ni même un pain bi-blanc, mais un pain qui serait toujours de froment, peut-être avec un petit rajout de seigle, mais un froment tiré à 90 ou même 92%. Il y avait des arguments économiques, stratégie moins coûteuse et plus productive, un argument socio-moral, une critique de l'imitation des classes supérieures, je n'aime pas le mot classe, disons des couches supérieures, c'est trop marxiste pour moi, disons des groupes sociaux supérieurs, il y avait donc un argument contre l'encouragement du luxe, de la dégradation morale, de l'avancement corrupteur, de la mollesse. Il y avait également un argument socio-nutritionnel, le pain de ménage qui allait remplir mieux l'estomac, donc soutenir une sensation de satiété, fournissant davantage d'énergie, une idée intuitive entre providentialisme et science sur la capacité d'un pain complet de mieux servir corps et esprit. Et le gouvernement, évidemment, était derrière ce pain de ménage, car la doctrine officielle, depuis le début donc, de la première libéralisation, c'était le bon prix, c'est-à-dire une hausse permanente des prix pour susciter un investissement dans l'agriculture. Ça voulait dire un prix du pain qui était plus fort et donc plus pénalisant pour la masse des gens et donc plus dangereux pour le peuple, pour l'État. Donc si on pouvait les inciter, le peuple, à manger un pain de ménage plutôt que d'exiger un pain bi-blanc, qui était leur quotidien, on allait encore pouvoir faire des économies et il y aurait moins de pression inflationniste sur les prix. Autre débat, même type, on proposait à cette époque-là un pain de munitions, un pain de guerre, un pain pour l'armée, qui serait plus économique et efficace, proche du diagramme du pain de ménage, mais il soulève une polémique sur le son qui est dans le pain. Parmentier, le grand savant des subsistances, disons que le son n'est pas nutritionnel, que le son simplement passe par le corps, Parmentier subissant une pression énorme de la part du ministère de guerre est obligé de faire volte-face. Tout de suite, il donne son approbation à ce pain de munitions qui est un pain donc complet, donc avec beaucoup de l'enveloppe cellulosique et également irrigué par le germe, donc avec le danger, surtout en campagne militaire, de devenir rance assez rapidement. On est aussi à l'époque de ce qu'on appelle le pacte de famine, sur lequel auquel j'ai consacré un petit livre, et le soupçon était jeté sur les blés d'une compagnie qui avait une licence royale et qui était montée justement pour mettre entre quarantaine Paris, pour que Paris ne soit pas touché par le risque de la libéralisation, pour que Paris reste abrité. On voulait avoir donc une espèce de grenier d'abondance en réserve, mais on associait la libéralisation avec ce monopole, et le monopole avec la mauvaise qualité. Le but était d'exploiter le peuple. Il s'agissait d'une politique prédatrice. On était même prêt à empoisonner le peuple. Le roi émancipant son peuple, se mettant de côté du producteur pour la première fois et non pas de côté du consommateur, était prêt même à voir le consommateur mourir de pathologies provoquées par les mauvaises fournitures qui étaient mises en jeu par donc l'agent royal Malissé, qui érigeait des magnifiques moulins économiques à Corbeil, qui sont aujourd'hui la base de l'empire de la grande maison agroalimentaire Soufflet. Donc le roi boulanger, parce que le roi c'est un boulanger par définition, en l'occurrence devient roi médecin, pardon, le roi marchand des grains, voire roi accapareur. C'est un début de ce que j'appelle la désacralisation de la royauté, et partons du pain, ou vice-versa. On est à l'époque où l'abbé Thierry, qui devient contrôleur général, ministre de l'économie, en remplaçant les ministres libéraux, il arrive au pouvoir en 1769, il dit, je cite, « La mauvaise qualité du pain était une des principales causes des émeutes de subsistance, tant dans la population civile que dans les prisons. » Il y avait un cas fameux à Bicêtre, notamment, où on donnait un pain noir aux prisonniers et ils refusaient de le manger. C'était une provocation insupportable et ils avaient eu gain de cause. Finalement, le boulanger a vu retirer sa concession et en donner un meilleur pain aux prisonniers. Face à l'absence des stocks adéquats, les femmes parisiennes qui marchent sur Versailles, craignant la famine en octobre 1789, vous connaissez tous cette histoire-là, ils y vont pour ramener le boulanger, la boulangère, le petit Mitran. On oublie que ces femmes se plaignent amèrement, pas simplement du risque de famine et de faim, mais de la mauvaise qualité du pain. Et elles en amenaient avec elles, en allant à Versailles, je cite, « Nous le ferons avaler à l'Autrichienne et nous lui couperons le cou. » Donc c'est un tout petit peu l'histoire de la brioche carnivalisée. C'est une inversion donc, de l'histoire de la brioche que je trouve extrêmement savoureuse. Pendant la Révolution française, il y a plusieurs études de cas possibles. Sans doute le plus frappant, incarnant le mieux l'idée de la qualité comme question politique, mais renversant ou redéfinissant la formule « mauvais pain, mauvais gouvernement », c'est la tentative avortée d'imposer un pain dit de l'égalité. Ce pain de l'égalité, c'était un très mauvais pain. Mais socialement, psychologiquement, symboliquement, c'était formidable. On allait tous manger le même pain. Mais c'était nivelé par le bas. C'était un pain un peu de ménage dans lequel tout rentrait. Et ce n'était pas un pain qui était bon, qui avait donc une jolie texture, une couleur qui était séduisante. Et c'était rejeté massivement, y compris par les gens qui espéraient le plus la régénération patriotique. Donc c'est une histoire, encore une fois, qui mérite beaucoup plus de temps. Je n'ai pas le temps. La qualité demeure une préoccupation centrale des gouvernements successifs au XIXe siècle, dans le sillage de Napoléon, extrêmement sensible à la question de la qualité du pain, en raison à la fois de son expérience militaire, une expérience comme soldat, mais aussi comme observateur intime du comportement de la foule parisienne. L'empereur faisait une pression sans relâche sur ses administrateurs de ne pas décevoir la demande, donc un pain de froment et un pain biblant pour le peuple parisien. Je suis frappé par les témoignages au cours de la grande enquête consacrée à la boulangerie. Il y a Frédéric Leplay là-dedans, c'est une histoire fascinante, jamais vraiment étudiée, comme d'ailleurs la grande enquête sur les céréales, même année, 1849. Ce qui me frappe dans ces témoignages, c'est comme leitmotiv, c'est l'exigence ouvrière de manger le pain du patron. Je veux manger le pain de la chaussée Tantin, on disait. Je veux manger le pain de moi. Je veux mon patron, je veux le même pain que lui. L'État, le gouvernement, là, était plutôt favorable à cette notion. La classe politique, les édiles parisiens en particulier, comprenaient que on ne pouvait pas ne pas prendre en compte cette exigence qualitative du peuple parisien. On peut regarder qualité et pathologie vers la fin du XIXe. La confluence d'une campagne morale et sanitaire, un mouvement de modernisation dans la boulangerie et une certaine nostalgie ludiste. Le pétrissage à la main était toujours de rigueur, même s'il y avait des pétrins mécaniques depuis la fin du XVIIIe siècle. On pétrissait 100 kilos à la fois. C'était un travail éreintant. C'était fait par le geindre qui gémissait, c'est l'origine de son nom, pour assurer son patron, qui était donc à moitié endormi en haut. Et le problème avec le pétrissage à la main, c'était que la sueur rentrait dans le pain. 300 grammes pour le premier pétrissé, 400 grammes le deuxième pétrissé. C'était l'époque de la question sociale en boulangerie, où on parlait beaucoup de la pénibilité du travail. Marx dénonçait les mineurs blancs, comme il disait, Georges Sand, les cachots sombres qui étaient le fournil. Mais c'était surtout cette crainte de sueur qui assaisonnait chaque pétrissé. On craignait que c'était vecteur de la tuberculose, maladie épidémique de l'époque et porteuse de panique, terreur. Et le gouvernement appuie des associations, fait pression sur les syndicats des boulangers pour la promotion de pétrin mécanique. Et d'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale, tout le monde en avait un. C'était un succès, disons, de politique sanitaire publique, même si le gouvernement ne répondait ni aux peurs des ouvriers de perdre leur boulot, qui était une fausse peur, ni aux inquiétudes des patrons. Les coûts étaient considérables. Enrichi par la sueur du compagnon, et le cas échéant, le résidu de ces ablutions, la farine contenait-elle les vestiges d'autres aliments organiques humains? Un couplet lubrique nous rappelle, inter alia, que cuire son pain, que cuire du pain était symboliquement la même chose que faire un enfant. Après tout, le boulanger, il montait sa pâte, il ensemençait, il accompagnait la pousse, la levée. Et quand j'étais en fournil en 69, j'entendais chanter ce couplet qui remonte au 19e siècle, qui souligne le pénible métier de boulangerie qui ne laissait guère de temps aux formes canoniques de la sexualité. Vous m'excuserez si ça choque, j'espère que non. C'était un garçon boulanger, ohé ohé, qui se masturbait dans la farine. Une belle dame vint à passer, ohé ohé, et lui dit « Votre pain sans lapine ». Vers le même moment, une offensive du mouvement panaire anti-moderne, un mouvement néo-grahamite, Graham Sylvester Graham, providentialiste américain, proto-écolo-bio et raciste, parce que c'était pas le pain biologique qu'on allait améliorer la race. On trouve ce discours chez le maire qui était l'ancêtre du pain biologique en France, justement à la fin des années 30, début des années 40. C'est une critique sévère des méthodes modernes qui, à leur manière, se révèlent aussi toxiques que la tuberculose. C'est les intrants chimiques dans l'agriculture, c'est les cylindres qui remplacent les meules dans les moulins, c'est la levure qui commence à chasser le levain, c'est un atavisme du 17e siècle dans la panification. Mais surtout, le troisième grand cas de contestation contre l'hégémonie du pain blanc comme marqueur de bien-être, de pureté, d'ascension sociale, de succès, le troisième grand contestation après le courant pain de ménage et l'initiative pain de l'égalité. C'est l'exigence d'un pain dit complet, dit aussi rationnel. Plusieurs centaines de boulangeries dans la région parisienne tentent dans les années 1890 la gageure, paraît-il, mais l'entreprise fait long feu. Le fait qui domine la vie de la filière blé farine pain au XXe siècle, je passe sur le fait que c'est désormais plutôt les récoltes pléthoriques plutôt que des disettes qui conditionnent la pensée, mais le fait qui domine dans la filière, c'est surtout la chute dramatique, la double chute dramatique de la consommation du pain et de la qualité, un phénomène qui s'avère être intimement lié. Le déclin impressionnant de la consommation pro capite, 650 à 700 grammes début 20e, 130 dans la dernière décennie du 20e siècle, aujourd'hui 120, 118, avec moins, bon, mais les mesures de tendance centrale sont extrêmement risqué, parce que les femmes en mangent beaucoup moins, les gosses aussi, les gens qui travaillent dur, etc., un peu plus, mais bon, c'est à peu près cela. Bon, il y a des facteurs qui expliquent ça. En partie, il y a, entre beaucoup de guillemets, le progrès, la modernisation, la mécanisation du travail, de transport en commun, de chauffage central. On a moins besoin de calories lourdes. Il y a aussi l'anatomie médicale qui était assez incroyable, et j'y reviendrai si j'ai le temps. Mais il y a surtout la désaffection sensorielle des consommateurs au cours du XXe siècle. Ils n'aimaient plus le pain, pour de bonnes raisons. Et cette double détérioration est certainement accélérée par les deux guerres, mais puisque les guerres posent des problèmes très particuliers et constituent des expériences exceptionnelles, je ne vais pas tenter de les aborder aujourd'hui. Je vais évoquer plusieurs facteurs du côté de l'offre plutôt que du côté de la demande, mais qui engagent à la fois la qualité et la politique publique. Une modification majeure dans la manière de pratiquer la planification influe sur la qualité et partant sur la consommation. C'est le début de l'épreuve que Peter Laslett appelait dans un autre contexte « The world we have lost », le monde que nous avons perdu. C'est le début de nostalgie pour notre foi mythique dans la boulangerie. C'est aussi dans le contexte de ce que j'appelais la question sociale qui agitait beaucoup la boulangerie, notamment le travail nocturne qui sera interdit vainement en 1919. La question sociale vise plus généralement à réduire donc la pénibilité extrême du travail et dans un métier où l'espérance de vie est historiquement parmi les plus courtes, on ne meurt pas boulanger, on ne meurt guère boulanger, c'était la phrase. Mais d'autres facteurs plus ou moins indépendants de ce socle jouent. Un manque de main-d'œuvre dans le sillage de la Grande Guerre, une perte de compétences dans le travail sur le vin, l'agent de fermentation canonique, mais process, comme on dit en bon français aujourd'hui, fort difficile à maîtriser et excessivement astreignant, autant pour la pâte que pour l'homme. Encouragé par les grandes meuniers et par les écoles de boulangerie et par la structure technocratique de l'État, on passe dans les années 1920 au travail dit en direct, le travail de la planification dite viennoise. Et on abandonne la planification dite française, la planification sur levure, elle est viennoise, la planification sur le vin, elle est française. Il est plus facile de travailler sur levure, on peut commencer théoriquement à 4h du matin et non pas à 23h la veille, on est censé améliorer le goût, c'est moins acide, améliorer la régularité qualitative, qui est le critère régalien de la boulangerie. Je n'ai pas le temps de démontrer le profond chambardement provoqué par cette modification drastique dans ce qu'on appelle l'organisation du travail. Le direct va institutionnaliser et perpétuer le de-skilling, la perte des compétences du boulanger. Il va planifier trop vite. On est souvent payé la pièce à l'époque. Il abrège radicalement ou supprime la première fermentation, dite le pointage, qui est le geyser de tous les arômes et de tous les saveurs. Il essaye de compenser et pour le déficit olfacto-gustatif et rhéologique ou physico-chimique en augmentant massivement la dose de levure et celle du sel en rajoutant des quantités significatives d'améliorants, dites additifs, auxiliaires technologiques, améliorants, etc. Donc le pain qu'on a est un pain terne, manquant de personnalité, peu jouissif. Certains boulangers eux-mêmes en sont conscients, ils essayent de remonter leur propre morale et celui des consommateurs en organisant des meetings de propagande appelés congrès de bon pain à la veille de la guerre, de la deuxième guerre. Pendant les décennies 20 et 30, la qualité du pain, tant organoleptique que sanitaire, est brutalement mise en question par une partie du corps médical, liée à divers réformateurs et moralistes. Et là, je vais aller très vite, il disait très simplement, le pain moderne, c'est-à-dire le pain fait sur cylindre, sur levure, et qui est extrait en blanc, c'est un pain qui est la cause principale du cancer, mais également cause de tuberculose, d'éthylisme et de maladies cardiovasculaires. Il y avait des dénonciations violentes dans la presse nationale avec des procès menés par les centrales syndicales, intervention de la chancellerie, faire pression sur les juges de trouver contre les calomniateurs, le problème étant que beaucoup de ces calomniateurs étaient des médecins de grand prestige. Donc c'est une histoire assez intéressante qui mérite d'être étudiée en détail, je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas le temps non plus de prendre la mesure de l'impact éventuel de la taxation du prix, la fixation du prix du pain sur la qualité. Pratiquée de façon inégale sur le plan territorial et chronologique depuis des siècles, la taxation prend une nouvelle dimension avec ce qu'on appelle l'organisation du marché du blé. La politique esquissée déjà à la veille du Front populaire, puis incarnée par la création en 1936 de l'ONIB, l'Office national interprofessionnel du blé, devenu bientôt ONIC, céréales remplaçant le blé. Le rôle de l'ONIB avant la guerre est à la fois extrêmement étroit et extrêmement ambitieux. Stabiliser les revenus de la France rurale, 50% du pays à l'époque, l'organisation du marché du blé induit une organisation meunière pâtissant d'une surcapacité colossale, et cette organisation meunière réduit de manière sensible la liberté des boulangers de marchander sur le prix en fonction de la qualité et le service des fournisseurs, et ça même avant le déclenchement de la guerre. La guerre va drôlement accentuer et intensifier les dimensions dirigistes et coopératives. Je dis bien coopératives, vois mon livre La fin des coopérations, ce n'est pas pour moi un mot péjoratif. Les dimensions dirigistes et coopératives de la politique agroalimentaire. L'après-guerre est une catastrophe et pour la filière et pour les consommateurs qui revêt que la libération apportera du pain blanc, symbole de la reconquête de la dignité et de l'indépendance sur le plan quotidien. Une longue pénurie, une décennie, bouleverse cruellement la France, pays totalement épuisé et exsangue, jusqu'au milieu des années 50. 1947, annus horribilis, grève et émeute sur fond de crise fomentaire aiguë. Quand je regarde de près 1947, ça me fait penser à 1760, ou pour mon ami Sarrazin, 1775, pour faire plaisir à Turgot et sa guerre des farines. Mais c'était une année terrible, avec les phénomènes de complot de famine, avec la mobilisation contre les enlèvements nocturnes de grains, avec les sentinelles de la CGT, c'était fascinant. Donc, on n'est pas en pleine reconstruction. On n'est pas dans le démarrage des Trente Glorieuses. La grande priorité, vraiment jusqu'aux années 52, 3, 4, c'est l'impératif, c'est le ravitaillement. Et l'ONIC n'est plus le monstre créé par la guerre, mais il exerce un dirigisme lourd, une sorte de soviétisation de la filière. L'ONIC opère ce qu'on appelle le robinet de blé, la répartition, c'est-à-dire chaque meunier a un contingentement, et en plus, au sein de ce contingentement, on lui dit exactement combien de blé il peut écraser. C'est pour faire vivre toute la meunerie, c'est-à-dire quelques 9000 meuniers, au lieu de laisser opérer par un jeu darwinienne une survie des plus forts. ONIC prend en charge la campagne et la récolte entière. ONIC met la récolte dans les OS, dans les organismes stockeurs. Il fixe le prix du blé, puis de la farine. La taxation du prix du pain relève parfois du centre, parfois de la périphérie. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de relation commerciale entre boulanger et meunier. Chaque boulanger est affecté à des meuniers. Il n'a pas le choix, c'est fait d'office. Il y a des unions meunières dans chaque département, aussi des sociétés dites auxiliaires de la meunerie, avec la fiction qu'il y a un seul moulin dans chaque département. Et ce moulin-là, c'est l'union meunière, et les boulangers envoient leur commande, entre guillemets, c'est-à-dire l'ONIC envoie la commande, et on sert comme ça. Donc l'ONIC fixe le taux d'extraction, qui détermine dans une large partie la qualité du pain. La quantité, pas la qualité, intéresse l'ONIC. Il faut que le prince nourricier, version bureaucratique et moderne, fait manger le peuple dans une période où le pain, ressurgissant contre toute attente, a repris sa place comme la denrée de première nécessité, sacrée, sanctuarisée, mais sans prendre de tout en compte ses propriétés sensorielles. On a des tickets de rationnement jusqu'à 49, un taux d'extraction très élevé, avec toutes sortes de succès d'aînés, seigle, pommes de terre, orge, avoine, riz, fèves et même craie, pas de cheval. l'ONIC prétend s'intéresser au blé SLM, saine, loyaux et marchands, mais même le sein le sein est sacrifié. Il y a des scandales tout à fait intéressants. Un grand scandale avec de l'orge pourrie dans l'Indre, dénoncé par un agent de répression des fraudes dont j'ai les papiers. Son fils est aujourd'hui chef de toxicologie de l'Hôtel Dieu à Paris. Ce monsieur qui s'appelait Chaste dit « c'est pourri, on ne peut pas donner ça à manger ». Et il s'est saisi par la répression des fraudes. L'ONIC le fait donc distribuer à des boulangers. Il fallait que le peuple mange. L'insouciance de l'ONIC contribue probablement à rendre possible, sinon probable, la tragédie de Pont-Saint-Esprit que je traite dans Le Pain Maudit en août 1951 dans le Gard. Aucune attention à la qualité, aucun contrôle systématique de la qualité. Tout débat concernant les propriétés SLM des farines est censé être réglé par les comités départementaux des céréales, système décentralisé, assez désorganisé, peu réactif, et pour le boulanger qui veut refuser sa farine, il doit payer une deuxième lot de farine. Il faut des mois d'analyse qu'il doit payer pour que ça arrive en contestation en commission. Ce n'était pas possible, on ne pouvait pas. Et puis il y avait un ravitaillement des zones déficitaires par des zones excédentaires. C'était un système usine à gaz avec des compensations par péréquation et des primes ou pénalités aux meuniers en fonction de leur niveau d'activité par rapport à l'activité d'écrasement permise dans le régime de répartition. Tout ça est sous-traité aux unions meunières sans surveillance aucune. Même avant le drame Spiripontin, ça c'est Pont-Saint-Esprit, beaucoup de Français vivaient mal l'inégalité alimentaire républicaine. Les zones déficitaires se représentaient comme des dépotoirs, je cite, des médiocres grains et des mauvaises farines que les citoyens privilégiés n'avaient pas envie d'ingurgiter, c'est-à-dire ceux des zones excédentaires. Et l'histoire de Pont-Saint-Esprit a ébranlé la confiance des Français dans leur pain quotidien, devenu vecteur de mort et de la folie plutôt que ration de survie et pour certains promesses de salut. 5 ans, je termine, avant le désastre de Pont-Saint-Esprit, juste au lendemain de la libération, inquiet de la chute séculaire de la consommation du pain, désireux de rétablir la confiance et améliorer la qualité, l'État crée le CNERN, le Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition d'alimentation. Des dizaines d'érudits, de nutritionnistes, de physiologistes, de chimistes et des représentants de la filière également. Tous les secteurs qui touchent de près ou de loin de blé, farine, pain sont représentés. La mission de CNA est pétrie d'ambiguïté. Si elle est chargée de porter un regard scientifique rigoureux sur cet aliment emblématique mais contesté, son but politique inavoué est de rassurer les Français panivores, angoissés, et de remettre la filière blé, farine, pain en orbite. Il serait injuste de dire que la mission de Snerna est de blanchir le pain, si je puis dire. Les procès-verbaux montrent que les participants travaillent souvent avec un esprit critique et le débat est parfois féroce, mais ils travaillent collectivement avec une volonté d'assainir le terrain pour que la filière puisse reprendre haleine, de démasquer et de disqualifier de fausses informations et les calomnies qui handicapent tellement la boulangerie, d'établir ou de rétablir des canons pour structurer et définir des pratiques du métier, de lui donner non une conception immaculée, mais un nouveau départ. Et bien plus tard, un des membres de Snerna dira, Jean Buret, qui est un agronome proche des meuniers, il dira, il n'y a plus eu d'attaque organisée contre la qualité du pain après l'intervention du Snerna. Les discussions du Snerna évoqueront en passant l'intoxication collective du Pont-Saint-Esprit. L'ONIC ne dirait jamais rien officiellement. L'affaire lui a porté pourtant un coup dur, mais face à la montée d'une critique libérale virulente et des reproches vifs de ses partenaires boulangers et meuniers, l'Office ne pouvait espérer perpétuer son influence, d'autant plus que le retour graduel d'une abondance fiable rendait ses prétentions dérisoires. Pont-Saint-Esprit donnait aux boulangers un puissant argument que le retour de la qualité passer par le retour de la liberté, le choix de son meunier, des relations commerciales, le retrait, le désengagement de l'État. Ennemi de l'organisation de la meunerie, Antoine Pinet, président du Conseil en 1952, a orchestré une scène de théâtre politique qui résume à sa manière le rôle historique de la qualité comme question politique. Convaincu que le système dirigiste corporatif sapait les bases d'une affirmation de qualité que seule la concurrence pouvait assurer, Pinet s'est procuré un pain grossier, noirâtre, plutôt immonde. Dirigeant une table ronde de meuniers, de boulangers et de fonctionnaires, il a lancé le pain à travers la table en direction des chefs de l'interprofession, comme au XVe ou XVIe siècle, des paysans exprimaient leur déception et leur colère vis-à-vis de leur seigneur en jetant à ses pieds exactement le même genre de pain qui criait violemment « Mauvais pain, mauvais gouvernement ». Merci.